Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Betsa, page 3, DAF Gimel.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Betsa Gimel. On a vu hier 4 explications pourquoi est-ce qu'un œuf qui serait né par Yom Tov serait interdit. Mishum Mukhtse, Achana Deraba, Mashkin Shezavu, Perot Shenashru. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en désaccord avec la première explication de Mukhtse? Puisqu'on avait posé une bonne question, si on parle de Mukhtse, on pourrait parler autant de la mère que de l'œuf. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en désaccord avec Rabba? Parce qu'ils ne pensent pas qu'il existe un interdit de préparer du Yom Tov à Shabbat. Pourquoi est-ce que Rav Yitzhak, par contre, n'est pas d'accord avec Rav Yosef? Puisqu'il préfère mettre le point commun en avant que les deux, c'est des solides et des aliments, plutôt que Mashkin chez Avou, qui est un liquide. Pourquoi est-ce que Rav Yitzhak ne le dit pas comme Rav Yosef? Puisqu'il préfère Betsa et Mashkin se ressemblent dans le fait où ils sont, par le fait où ils sont complètement à l'intérieur du corps porteur, alors que les fruits sont complètement dévoilés. Rabbi Yochanan, nous dit la Gemara, lui aussi est d'accord avec cette idée de Mashkin chez Avou, puisque Rabbi Yochanan a opposé deux enseignements de Rabbi Yehuda, il a répondu. Premier enseignement de Rabbi Yehuda, au sujet de fruits dont le jus a coulé sans qu'on ait rien fait, Danakaba pense que dans tous les cas c'est interdit. Rabbi Yehuda lui pense que ça dépend des fruits, s'ils étaient dédiés à la consommation telle qu'elle, on aurait le droit de le faire parce qu'il n'y a pas de risque qu'il va les presser, mais si jamais il avait décidé de les presser, alors c'est fait, même si le jus a coulé tout seul, on n'a pas le droit de boire ce jus-là. Nous dit la Gemara, donc Rabbi Yochanan analyse cette marloquette et nous dit donc tout ce qui est défini comme nourriture est défini comme nourriture, c'est-à-dire tout morceau qui va sortir de cette nourriture est défini comme nourriture, elle est permise. Et pourtant, il y a marqué au sujet de Rosh Hashanah qu'on peut faire des prélèvements d'un jour à un autre, puisque forcément l'un des deux jours est défini comme Chol et l'autre comme Yom Tov. Pareil pour un œuf qui est né le premier jour, on a le droit de le consommer le second jour, puisque ou il est né un jour de Yom Chol, ou aujourd'hui c'est Yom Chol. Moi je dis à la Gemara, le premier jour, on n'a pas le droit de le consommer, seulement le deuxième jour, on a le droit. Pourquoi est-ce que le premier jour, on n'a pas le droit? Parce que tu interdis un œuf qui est né pendant Yom Tov. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu interdirais un œuf qui est né pendant Yom Tov, puisque Mashkin, chez Avou, toi-même, Rabbi Yehuda, tu m'as dit que c'est seulement si le fruit porteur ou la mère, elle est dédiée à la consommation. Et donc, puisque la poule, elle est forcément pas dédiée à être pressée, l'œuf devrait être permis. Puisqu'il n'avait pas le choix, Rabbi Yochanan nous a dit forcément, au sujet de Mashkin, chez Avou, il faut inverser. Tanakama, celui qui fait la différence, et d'après Rabbi Yehuda, c'est tout le temps interdit, c'est pour ça que la betsa est interdite. Et donc, nous dit la Gemara, puisque je vois qu'il a opposé ces deux braïtot, et qu'il comprend que, d'après Rabbi Yehuda, Mashkin chez Avou, c'est une certaine définition, et betsa, c'est Mashkin chez Avou, c'est pour ça qu'il a posé sa question. Ça sous-entend que, d'après Rabbi Yehuda, betsa est interdit, Mishum, Mashkin chez Avou. Alors, Vina, pour répondre à cette question, on n'a pas besoin de faire ce que Rabbi Yochanan nous a dit. On peut tout simplement dire que d'après Rabbi Yehuda, ça devrait être permis. Mais il aura dit, d'après vous qui pense que c'est interdit, ça devrait être interdit au maximum le premier jour, mais pas le deuxième jour, puisque c'est deux gdouchas différentes. Et Rabbanan nous a répondu, non, je pense que c'est une seule gdoucha. Alors, Vina, Biré, Deravola lui donne une autre réponse. Pourquoi est-ce que d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit? Parce que c'est mukhtse, un standard normal, puisque c'est un animal qui était dédié non pas à la consommation, mais à avoir des œufs. Et c'est pour ça que c'est mukhtse. L'Agma a posé une question sur toutes les explications qui ont été ramenées dans notre Mishnah. Un œuf qui est né pendant Shabbat, pendant le Yom Tov, est interdit à la consommation, on n'a pas le droit de le déplacer, ni pour l'utiliser en tant que couvercle, ni pour l'utiliser en tant que support pour un lit, mais on a le droit de mettre un ustensile pour le protéger. Si jamais on a un safek, il est interdit à la consommation, s'il est mélangé, ils sont tous interdits. On dit l'Agma, d'après Rabba, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il est interdit quand on a un safek, parce que c'est un safek de Raïta, mais d'après Rabbi Yitzhak Rav Yosef, pour qui l'interdit est seulement Midera Banane, Aré Safek Dera Banane, Akula. Nous répond, la Sefa, on parle d'un Safek Trefa, et c'est pour ça que c'est interdit Mideoraita. Si c'est ainsi, demande la Gemara, pourquoi est-ce que quand il est mélangé, c'est interdit? Si on parlait par rapport à Yom Tov, donc c'est d'abord chez Eshloma Tirin, comme Rabba nous a dit à Hana, et donc c'est par rapport à Yom Tov, attends, le lendemain, il sera permis. Ah, si Eshloma Tirin, il n'y a pas de Bitul Berov. Mais d'après toi, d'après l'explication que tu as donnée maintenant, on parle d'un interdit qui est Minad Torah et qui n'a pas de Matirin, qui sera tout le temps interdit. On devrait le permettre. Et si jamais tu voudrais m'expliquer que, puisque c'est quelque chose d'important, d'avoir chez Beminyan et nos Batel, puisqu'il se vend à l'unité, il n'est pas Batel, il a son importance, c'est une marloquette et Moraim, qu'est-ce qui est défini comme d'avoir chez Beminyan? Est-ce que Kol chez Darkolimanot ou est-ce que Ed chez Darkolimanot? C'est-à-dire, Kol chez Darkolimanot, si en général on le vend à l'unité, mais on peut le vendre aussi pas à l'unité, donc ça n'est pas défini comme quelque chose de Khashoug, je comprends pourquoi est-ce que l'œuf n'est pas Batel, mais s'il le faut le vendre qu'à l'unité, l'œuf n'est pas vendu qu'à l'unité, et donc c'est plus quelque chose de Khashoug, et donc c'est le vrai Batel. L'Agma nous ramène cette marloquette. Quelqu'un qui avait des trèfles qui étaient à Kerem qui devaient être brûlés, même s'ils se sont mélangés, il n'y a rien à faire, ils ne seront pas battels, tout devra être brûlé. D'après Chachamim, on peut faire bitoul be'echad mebataim, c'est-à-dire un deux centième, en enlevant la quantité de l'interdit qui est mélangé. La Braïta continue, nous dit, d'après Rabbi Meir, quelque chose qui a de l'importance ne peut pas s'annuler. Chachamim nous dit que seulement six choses ne peuvent pas s'annuler. Rabbi Akiva nous dit seulement sept choses. Six choses d'après Rabbi Meir, d'après Chachamim, pardon, des noix qui viennent de ferrer, des grenades qui viennent de badane, des raviotes de vin qui sont fermées, des épinards d'une qualité spéciale, des kourouvim, du chou d'une qualité spéciale et de la hâte grecque. Rabbi Akiva rajoute aussi du pain de maison, c'est quelque chose de khashuv et qui n'est pas batel. Et donc toutes ces halakhot-là ont un impact par rapport au bitoul, autant de orla ou autant de kile akerem. Et à ce sujet, la braïda à ce sujet, dans cette machloket Rabbi Meir Chachamim, il y a une machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous dit et chez Darko Limanot. Seules les choses qu'on a l'habitude de vendre qu'à l'unité ne peuvent pas s'annuler. Rabbi Shimon Lakish nous dit ce qu'on a en général l'habitude de le vendre à l'unité, c'est déjà suffisant pour lui donner une khashivut. Donc, on pourrait comprendre pourquoi est-ce que l'œuf n'est pas batel parce qu'en général on le vend à l'unité. Mais d'après Rabbi Yochanan, on ne comprendrait pas. Rav Papa répond on a trouvé un Tana qui pense que Kol Shedarko Limanot. Qui pense que Kol Shedarko Limanot, oui, tout ce qui en général est vendu à l'unité a une importance. Il est marqué au sujet de figues qui ont été écrasées, qui ont été formées plutôt en rond, et c'est comme ça qu'on les vendait. Et on a un safek, maintenant on a écrasé, on a formé des figues de Trouma, on a un safek, lesquelles sont Trouma. Premier avis, c'est Rabbi Meir, il dit qu'il y a une marloquette Rabbi Lézer et Rabbi Ushua. D'après Rabbi Lézer, on va considérer que ce qui est en haut de l'ustensile est mélangé avec ce qui est en bas de l'ustensile et donc il y a bitoul. D'après Rabbi Yoshua, même s'il y a, d'après Rabbi Yoshua, il y aura bitoul que s'il y a 100 fois plus pour définir qu'il y a bitoul, il faut qu'il y ait 100 fois plus, non pas dans les chaviotes, mais dans les hauts de chaviotes, c'est-à-dire grâce à la partie de l'ustensile qui a formé ces figues. Rabbi Yudal nous dit que la marloquette est différente. Rabbi Lézer penserait comme Rabbi Yoshua de Rabbi Meir. Et Rabbi Yoshua pense que ça ne peut pas avoir de bitoul. Pourquoi? Kol Shedarko, les Manot, il ne peut pas avoir de bitoul sur quelque chose qui, de temps en temps, est vendu à l'unité. Donc, on a trouvé notre Tana, d'après lequel on pourrait expliquer la Braïta, qui nous dit qu'il n'y a pas eu de bitoul Berov dans l'œuf. Bien que, en général, Rabbi Yochanan pense qu'il faut que ça soit vendu qu'à l'unité, mais il y a un Tana qui pense que si, en général, c'est vendu à l'unité, c'est Khashuv. La fin de la Braïta, c'est marqué que Drasa Beigoul, si jamais il a écrasé les figues Beigoul, alors, d'après tout le monde, il y a bitoul de Malagma. Comment est-ce que je peux dire qu'il y a bitoul? C'est justement ça la marloquette. L'agma nous répond, on parle d'un igoul qui est lui-même mélangé et composé autant de trouma que d'autres choses, donc il n'est pas vendu à l'unité. Et donc, c'est sûr qu'il y a bitoul. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a d'abord expliqué pourquoi est-ce que les avis étaient en désaccord entre eux, ou alors parce qu'on n'était pas d'accord avec Rav Nachman dans le pshat, parce qu'on avait une question, ou alors parce qu'on n'était pas d'accord avec Rabba dans ce din de Achala. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yosef, chacun trouve un point commun qui est différent. Rabbi Yochanan pense aussi que c'est Mishou Mashkin chez Zavou, parce qu'il a posé une question d'un côté Mashkin chez Zavou. Rabbi Yehuda pense que c'est seulement si le fruit porteur était dédié à être pressé, donc une poule c'est forcément pas dédié à être pressé, donc il ne devrait pas y avoir de Mashkin chez Zavou, donc la betsa devrait être permise, non contradiction. Les autres Emoraïm ont dit que c'était pas une contradiction, ou alors ils pensaient bien mettre que c'était permis, et ce qu'il a dit que c'était interdit, c'était seulement d'après la vie de Rachamim, ou alors ils pensaient qu'on parlait d'un cas où c'était interdit parce que l'animal, la poule, était dédiée à avoir des œufs. Après avoir amené toutes ces explications, on ramène une braïta, on voit que Safek Assour, on demande pourquoi est-ce que Safek Assour a resté Safek Darabanan, à part Araba qui est Safek Doraïta, on a répondu que Safek Terefa, et donc Assour Minatora. On a dit, mais si c'est comme ça, il devrait avoir Bitoul Berov. Et mis à part ça, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir Bitoul Berov? Puisque c'est d'avoir Chiesh le Matirin, puisque demain il devrait être permis. D'après Araba, il n'y a pas Bitoul Berov, je comprends. Parce que c'est d'avoir Chiesh le Matirin, demain il va être permis. Mais si quelque chose ne va pas être permis le lendemain, c'est d'avoir chez N le Matirin, on devrait avoir Bitoul Berov. On a répondu au final que c'était d'avoir chez Baminyan qu'il n'y avait pas de Bitoul Berov, tout simplement parce que c'est quelque chose qui avait une importance. Il ne peut pas avoir de Bitoul Berov dans quelque chose qui a une importance. Tout à fait clair, Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.